Il me semble qu'on voit bien depuis deux jours se dessiner ici une espèce de nous, des résistants à une certaine évolution sociale. On va maintenant écouter Colette Magnier.
Bien, pour faire un peu la transition avec ce que vient de dire Roland Gori, je vais citer le début de « Tout est langage » de Françoise Dolto, qui commence par « Les enfants qui naissent aujourd'hui auront assumé. Nous ne savons pas du tout quoi, mais c'est une chose très importante de notre époque. » Alors c'est au niveau des nouvelles procréations, des nouvelles filiations que je vais intervenir. Donc l'assistance médicale à la procréation a profondément bouleversé les modalités ancestrales de la conception et de la gestation et a permis l'accès à la parentalité pour de nombreux couples stériles, couples hétérosexuels dans le cadre de la législation française, couples ou personnes célibataires et ou homosexuelles dans certains pays étrangers pour bénéficier du transfert de gamètes ou de gestation pour autrui. Dans ces contextes nouveaux, sexualité et conception sont dissociées. Filiation et parentalité n'ont plus nécessairement de lien génétique. La parenté d'intention l'emporte juridiquement sur la parenté génétique. A contrario, la filiation génétique peut être jugée illégale et passible du pénal dans le cas d'enfants nés de parents génétiques ayant eu recours à la gestation pour autrui. Les effets de ces nouvelles modalités de filiation se font ressentir dans la clinique, notamment par la multiplication des demandes d'analyse dues aux difficultés rencontrées par des personnes pour être parents, soit pour cause de stérilité médicale et ou psychique, soit en raison de leur orientation sexuelle. Chez tous ces patients en quête de famille, peut travailler la culpabilité de ne pas être dans les normes des familles traditionnelles, que ce soit au niveau de la conception ou au niveau des diversités, des nouvelles configurations familiales. Cela conduit les protagonistes confrontés à ces innovations à douter, à craindre des traumatismes pour leurs enfants et donc à consulter un psychanalyste. Parallèlement au désarroi découlant des nouveaux univers dans lesquels gravitent ces patients et dont la société se fait l'écho, interrogations et inquiétudes se multiplient dans le milieu psychanalytique lui-même. Inquiétudes quant à la perte des valeurs, à la transformation des rôles parentaux, au délitement de la différence des sexes, à la remise en cause de la fonction paternelle, à son autorité bafouée, toutes évolutions alarmantes d'où découlerait la mise à mal de la fonction symbolique elle-même. C'est pourquoi, face à ces craintes, il m'a paru important, en ce centenaire de Françoise Dolto, de confronter ce qu'elle a théorisé de son expérience clinique concernant la fonction symbolique, la différence des sexes et les fonctions de père et mère aux nouveaux modes de parentalité et filiation. En son temps, Freud, comme médecin, recevait des couples, des demandes de couples, non pour concevoir à tout prix un enfant, mais au contraire, pour en limiter la venue à tout prix. Ce malthusianisme lui paraissait inéluctable. Et il considérait que, je le cite, « notre civilisation devait être capable de se mettre en accord avec les revendications de notre sexualité ». Thème toujours d'actualité, car même si la sexualité n'est plus confrontée aux mêmes revendications, il s'agit bien d'un problème d'adaptation de la civilisation au sexe, au genre, aux nouvelles possibilités de procréation et aux diversités familiales, ce qui nécessite l'élaboration de nouveaux repères. Françoise Dolto elle-même, au début de ce qu'on appelait alors les bébés éprouvettes et les mères porteuses, avant que ce recours ne soit interdit en 1991, fut sollicitée sur les risques qu'encourraient ces bébés nés de façon artificielle. Elle a toujours refusé de faire quelque pronostic que ce soit, estimant que ce sont les enfants eux-mêmes, devenus grands, qui auraient quelque chose à en dire, et que les psychanalystes n'ont pas à savoir pour tout le monde. Elle refusait de généraliser, estimant que chaque cas était particulier, ne voyant pas ce qui permettait de condamner ex abrupto la possibilité pour une femme seule de se faire inséminer ou qu'il n'y aurait pas de quoi vivre pour un enfant né de mère porteuse. position prise en 1986 au cours d'une émission de radio sur France Culture. Loin de porter un jugement moralisateur sur ces nouveaux modes de procréation, elle se mettait du côté de l'enfant et privilégiait le droit pour un être humain, je la cite, de connaître de qui il est issu et qui sont les divers relais auxquels il doit le fait de s'être incarné. Elle assignait à la loi non pas un pouvoir restrictif ou normatif, mais au contraire, la nécessité de donner un statut reconnaissant leur filiation aux enfants nés de façon si singulière, sans s'immiscer dans les choix de leur conception. Si la loi devait être révisée, ce sont les enfants eux-mêmes, devenus adultes et forts de leur expérience, qui pourraient proposer les modifications souhaitables. La seule interdiction qu'elle souhaitait voir établir par la loi, c'était celle de donner du sperme sans qu'il y ait au moins une photo du donneur permettant aux enfants d'avoir une représentation physique de leur géniteur qui puisse être prise dans le langage. Car, disait-elle, le langage de la filiation charnelle, qui est symbolique pour un être humain, ne peut se passer d'un intense élan psychique associé à une forme. Son analyse allait ainsi à contre-courant des dispositions prises par les institutions ayant recours aux dons de gamètes. Car c'est dans une toute autre problématique que se sont constitués les CECOS, Centres de conservation des œufs et du sperme humain, en 1973, pour encadrer l'assistance médicale à la procréation. Instaurant la règle de l'anonymat des donneurs, les médecins ont veillé, dans la mesure du possible, à la compatibilité physique entre le père d'intention et le donneur de gamètes, dans une culture du « comme si », reléguant les gamètes au statut de cellules non sexuelles, comme dans les cas de dons de sang, de lait ou d'organes. Beaucoup d'enfants, nés dans ces conditions, ignorent leur origine. Mais au fur et à mesure que les effets négatifs des non-dits familiaux se sont répandus, les enfants ont été de plus informés de leur situation particulière. C'est ainsi que les parents, confortés dans leur parentalité et ne faisant pas du secret un impératif, sont, autant que leurs enfants, confrontés au problème de l'anonymat. On peut alors constater que, comme l'envisageait Françoise Dolto, ce sont les enfants eux-mêmes qui, devenus adultes, parlent de la souffrance occasionnée dans leur développement par l'ignorance dans laquelle ils sont tenus sur leurs origines génétiques, avec la meilleure intention qui soit. Ils ne remettent pas en cause leur filiation sociale. Ils ont bien un papa et une maman, une filiation affective reconnue, mais ressentent comme un gouffre insondable l'ignorance dans laquelle la loi française les maintient. Ils énoncent la souffrance de l'anonymat, de ne pas savoir à qui ils ressemblent, et se vivent prisonniers de fantasmes sans fin, parce que non médiatisables, à quoi s'ajoute la crainte de l'inceste de rencontres amoureuses, et si c'était ma sœur, mon frère, question que rien ne peut venir endiguer. Par voie de conséquence, beaucoup de ces enfants se retrouvent dans des associations, tant pour partager leur expérience commune et en même temps si diverse, que pour faire évoluer les lois de bioéthique. Or, la prochaine révision aura lieu en 2009, où une des revendications formulées sera la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes en vertu du droit absolu à connaître ses origines, revendication commune aux enfants nés sous X. Certains pays pratiquant les dons de gamètes ont déjà modifié leur législation et remis en cause les dons anonymes. Il en est ainsi notamment pour la Suisse, l'Angleterre, la Suède, Norvège, Australie, Nouvelle-Zélande. L'Espagne et le Portugal n'ont pas levé l'anonymat, mais donnent certains renseignements non identifiants sur la famille du donneur. En France, c'est donc dans le cadre des CECOS que se définissent les critères de sélection des donneurs et des receveurs de gamètes. Les donneurs doivent avoir déjà des enfants, ainsi que l'accord de leur partenaire s'ils vivent en couple, et les dons sont gratuits. Les receveurs doivent être des couples hétérosexuels, mariés ou justifiant d'au moins 2 ans de vie commune, la stérilité de l'un ou de l'autre des partenaires, voire des deux, étant attestée médicalement. L'âge des femmes ne peut excéder 43 ans. Ainsi, en France, une femme célibataire ou homosexuelle ne peut recevoir une insémination artificielle. Elle peut cependant pratiquer une insémination artisanale avec le don de sperme d'un ami, ou se rendre en Belgique ou en Espagne pour un don anonyme. Le cas de la gestation pour autrui est plus complexe. En Europe, elle est tolérée dans certains pays comme la Belgique et les Pays-Bas et autorisée en Grèce et au Royaume-Uni. En Belgique, cependant, le droit de filiation reste un obstacle à son développement, car en l'état actuel de la législation belge, la mère reste celle qui a accouché. Quant aux autres pays, à l'instar d'Israël, ils réservent cette pratique à leurs ressortissants. C'est pourquoi bien des couples français traversent l'Atlantique pour une gestation pour autrui aux États-Unis ou au Canada. Selon l'association Clara, qui soutient évidemment la légalisation de la GPA, cette pratique concernerait une centaine de couples par an depuis l'interdiction de 1991. Chiffre voisin de ce qui est pratiqué en Angleterre chaque année. Les États-Unis, eux, estiment qu'environ 1000 enfants naissent annuellement de gestation pour autrui. Quant aux enfants nés dans une famille homoparentale, avec deux papas ou deux mamans, ils sont estimés à entre 30 et 40 000 selon l'INED, et 300 000 seraient concernés par des situations homoparentales permanentes ou ponctuelles selon l'association des parents gays et lesbiennes. Il ne s'agit pas ici de discuter du bien fondé ou non de telle ou telle pratique, mais de considérer l'existence des enfants ainsi conçus. D'ores et déjà, à l'école maternelle, en CP, quand la maîtresse parle de la question d'où viennent les bébés, elle peut entendre un enfant dire « Moi, c'est pas mon papa qui a donné la petite graine, c'est un monsieur qu'on connaît pas. » Un autre enfant pourrait dire « Moi, c'est pas ma maman qui m'a porté dans son ventre parce qu'il était cassé, c'est ma nounou de naissance. » À condition que l'enfant n'ait pas la consigne de le taire parce que les parents se trouvent en situation illégale face à la justice française qui ne reconnaît pas la filiation de la mère génétique et ou d'intention avec l'enfant né de gestation pour autrui, puisque cette pratique est prohibée. Malgré cet interdit, en octobre 2007, la Cour d'appel de Paris a validé sur les registres de l'État civil français des actes de naissance américains de jumelles nées de mère utérine en Californie. À la suite de cet arrêt, et en prévision de la révision de loi de bioéthique en 2009, le Sénat a mandaté un groupe de travail sur la maternité pour autrui. Le rapport rendu en juin préconise de l'autoriser en l'encadrant. Françoise Dolto, elle, pensait que la loi n'avait pas à intervenir dans ces arrangements et s'insurgeait contre un médecin qui, à l'époque, s'indignait du fait que les féministes ne s'élèvent pas contre ce qu'ils percevaient comme de l'esclavagisme moderne. En rétorquant, « Je trouve très gentil les messieurs qui disent que les femmes féministes ne devraient pas laisser faire ça, mais qu'ils laissent les femmes se débrouiller. Non parce que ça ne regarderait que les femmes, mais parce que si des femmes s'accordent entre elles ou des couples entre eux, ce sont des relations humaines qui s'élaborent, se parlent et se symbolisent. Et si l'on suppose qu'un jour, un enfant pourra naître d'un utérus artificiel, dans un milieu hospitalier, bercé par le bruit rythmé de machines, cet être humain, conçu et se développant hors d'un corps maternel, aura pourtant bien été conçu et sera attendu par des humains qui s'en sentiront les pères et mères et qui auront à humaniser cette fécondation et cette gestation artificielle en sublimant, par-delà la technologie, la relation affective et langagière à ce nouveau-né pour l'inscrire dans l'histoire de leur lignée. Quel que soit le scénario, y compris celui qui, à l'heure actuelle, semble relever du domaine de la science-fiction et bouleverse les repères traditionnels, les prises de position psychanalytiques de Françoise Dolto sur la filiation et la parentalité ouvrent des perspectives pour penser ces diversités familiales en permettant de distinguer entre les aléas conjoncturels d'une époque en mutation et l'advenue d'un humain au langage. Car l'éthique du sujet n'est pas réductible au seul contexte dont il est issu, ce qui lui faisait dire que, je la cite, « cette technologie concernant les corps ne peut aborder ce qu'il en est du désir de naître et de survivre. Cela n'est pas du domaine de la loi ni de la biologie. Pour Françoise Dolto, l'enfant se construit symboliquement dans sa relation avec autrui. La fonction mammifère biologique de l'être humain existe aussi, mais elle est totalement marquée par le langage. Ainsi, quelles que soient les conditions de sa naissance, c'est la façon dont ses parents, qu'ils soient génétiques, d'intention ou sociaux, le portent symboliquement pendant le temps de sa gestation et le soutiennent langagièrement le temps de son développement psychique, qu'il inscrira lui-même dans le langage. La mère de substitution, tout comme les parents d'intention, porte aussi symboliquement l'enfant en fonction de sa propre histoire. Cela implique que les humains, responsables de sa naissance, puissent assumer les conditions mêmes de cette naissance et en avoir une représentation qui, si elle rompt avec les repères traditionnels, n'en élabore pas moins une matrice conceptuelle subjectivable, permettant l'articulation du schéma corporel à l'image du corps par le langage, pour reprendre la terminologie conceptuelle de Françoise Dolto. Les capacités symboliques, caractéristiques de l'humanité, ne disparaissent pas lors des changements de modèle, même si ceux-ci peuvent paraître transgressifs. Il faut simplement le temps que la civilisation se mette en accord avec les revendications de notre sexualité, comme le disait Freud. Ce qui est particulièrement remarquable chez Françoise Dolto, c'est qu'elle n'a jamais cédé à la psychanalyse de l'événementiel, du conjoncturel, soit pour y abonder de manière opportuniste, soit pour dénigrer en faisant de la morale, car elle ne confond jamais le contexte historique, personnel et social dont se sert le sujet avec la portée universelle de l'inconscient. En 1984, participant à une commission d'études organisée par Robert Badinter sur les fécondations artificielles et l'émergence des mères porteuses, elle s'appuie sur son expérience clinique des troubles précoces pour attester que ce ne sont pas les faits dans leur réalité marginale qui marquent le plus ces enfants, mais l'angoisse de leur entourage et le non-dit de leurs épreuves réelles à ces bébés ou à ces jeunes enfants par les personnes qui les élèvent puis les éduquent. Les lois humaines évoluent, de nouvelles valeurs émergent, mais la logique de la parole dans la communication interhumaine est la force principale qui guide le petit homme dans son développement, dans le détour par la parole de l'autre. Cet autre, initiateur de l'humanisation, symbolisé par père et ou mère, Françoise Dolto en a une représentation à la fois ancrée dans la réalité du sujet et de la société, et en même temps, hors temps et hors espace. Sa conception des rôles de père et mère est sur ce plan exemplaire. Comme elle ne la limite pas à une simple différence des sexes ou au modèle dominant d'une époque donnée, nous pouvons nous y référer pour éclairer les enjeux soumis à l'incertitude et au doute face aux nouvelles configurations parentales. Ainsi, dans le cadre des émissions de France Inter, qui ont eu lieu entre 1976 et 1978, Françoise Dolto avait reçu des lettres de pères au chômage alors que leurs femmes travaillaient. Restant au foyer, ils s'inquiétaient parce que leurs enfants les appelaient maman et leur mère papa. Françoise Dolto s'est elle-même tout de suite inquiétée de savoir si les enfants reconnaissaient bien chacun dans son identité sexuelle. Et en effet, les enfants distinguaient bien qui était le monsieur et qui était la dame. Ils intervertissaient seulement les désignations sous l'effet de l'imaginaire idéologique de la fonction sociale. Ne dit-on pas à l'école maternelle, à l'heure de la sortie, c'est l'heure des mamans. Ces témoignages confortaient l'idée que papa et maman ne recouvrent pas les images de père et mère. Au-delà de la différence sexuelle, l'idée de mère s'associe à la notion de continuité et l'idée de père à la discontinuité dans le temps et l'espace. Mais les fonctions maternelles et paternelles ne recouvrent pas celles de l'identité sexuelle. Père et mère peuvent avoir chacun une fonction maternante ou paternante, conjointement ou alternativement, et les deux se trouvent réunis en une même personne élevant seul un enfant quand cet adulte n'a pas cet enfant pour seul horizon et vit avec lui une relation médiatisée faisant place au tiers. On en a vu un extrait ce matin, d'ailleurs, sur les fonctions maternantes et paternantes. Le tiers n'est pas seulement le père. Et le père n'est pas forcément le père réel. Il est tout autant celui qui occupe les pensées de la mère, mère utérine et ou mère nourricière, que les paroles marquantes prononcées par l'entourage sur l'enfant. Le père, c'est le tiers symbolique qui, dans la triade père-mère-enfant, structure la relation. Et dans la relation, l'enfant et le père réel ont tout autant besoin que la mère elle-même soit entière symbolique. Père et mère sont donc tout autant aptes à apporter les castrations symboligènes. Les pulsions actives et passives ne sont pas l'apanage d'un sexe spécifié. En dehors de la procréation, où les rôles ne sont pas interchangeables, hommes ou femmes nous sommes, dit-elle, dans ce qui dans notre attitude sexuelle est sublimée, capable de jouer les deux rôles. Si les rôles ne sont pas interchangeables dans la procréation, la gestation pour autrui tend à égaliser les rapports de père et mère. Les parents génétiques et ou d'intention se retrouvent sur un pied d'égalité, sur le versant paternel. Si les liens tissés avec la mère utérine ont été étroits, surtout en fin de grossesse, le fœtus aura entendu les voix de ses pères et mères de l'extérieur, comme tout fœtus avec son père. Il n'entendra plus les voix de la famille d'accueil in utero, comme un enfant adopté. Ce qui ne veut pas dire cependant que le couple vit la conception et l'externalisation de la gestation de la même façon, tant sur les plans imaginaires et symboliques que réels, ne serait-ce que parce qu'une mère qui n'a pas accouché peut cependant préparer hormonalement, avoir une montée de lait après l'accouchement de la nounou et allaiter son enfant. Le travail que Françoise Dolto a fait avec les enfants des pouponnières l'a aussi conduite à mettre en lumière les pères et mères intérieurs auxquels a accès tout être humain, convaincu que tout être en lui, l'idée de mère et l'idée de père, comme, je la cite, « loi psychologique », qui existerait même dans une société où il n'y aurait plus du tout de famille, où les enfants seraient élevés en groupe d'enfants, dans la mesure où ceux qui s'en occupent leur donnent, par la parole, accès à cette dimension symbolique et à la possibilité de se structurer comme sujet. Pour Françoise Dolto, l'être humain est physiquement un mammifère et psychiquement un être de filiation langagière, donc d'adoption. Aucun d'entre nous, dit-elle, n'a besoin d'être élevé par ses parents de naissance à partir du moment où d'autres êtres humains permettent notre développement potentiel libidinal et éduquent nos capacités vers leur destin d'échange langagier, créatif et procréatif. Cependant, cette idée d'adoption vaut tout autant pour les parents légaux, fussent-ils génétiques ou sociaux, et va à l'encontre de la tendance à la possessivité que peuvent avoir certains parents sur leurs enfants. Aucun modèle familial n'est le rempart absolu contre ce risque d'appropriation. C'est pourquoi la socialisation précoce lui paraissait la meilleure prévention. Loin de ce qui est attribué par certains à Françoise Dolto comme dérive dont la permissivité, le laxisme éducatif serait à l'origine de l'enfant roi, elle insistait au contraire sur le respect que tout adulte devait à un enfant, qu'il soit parent ou travailleur social, et qui consiste à lui donner la possibilité de s'autonomiser en lui prenant à faire les choses par lui-même et non pas les faisant à sa place parce que c'est plus rapide et plus commode. Lui permettre de s'auto-materner, c'est-à-dire de pouvoir s'occuper de lui, se ressourcer dans la sécurité comme une mère peut le faire, et de s'auto-paterner, c'est-à-dire d'affronter l'extérieur et d'évoluer au milieu de sa classe d'âge. Une telle intériorisation des fonctions parentales implique que les parents ne considèrent pas l'enfant comme un objet leur appartenant, mais comme un sujet à qui ils permettent d'advenir. Tout dépend de la façon dont il est parlé par les adultes tutélaires et de la façon dont ces adultes se parlent entre eux et à travers lui. Cette démarche est radicalement différente de ce que la société, à travers ses médias, ses psy-médiatiques, ses comportementalistes et autres « spécialistes », entre guillemets, met en avant à l'heure actuelle, à savoir les symptômes censés être produits par telle ou telle caractéristique des mutations sociales, où sociologie et statistiques mettraient au pas la logique de l'inconscient et le pouvoir de la parole, au profit de réponses quantitatives globalisantes, expliquant le déclin de l'ordre social, le règne de l'enfant tout-puissant ou la démission paternelle, selon l'effet de mode du moment. Or, Françoise Dolto n'a jamais suivi la mode. Grâce à la force, la rigueur et la spécificité de sa pensée psychanalytique innovante, centrée sur l'enfant comme sujet désirant. Et c'est parce qu'elle n'a jamais suivi la mode que sa pensée demeure pleinement d'actualité. Je vous remercie.